Bonjour à tous. Du babyphone à l'aspirateur robot dans nos maisons, jusqu'au système industriel, les objets connectés sont partout.
Oui, partout.
Et leur sécurité ? Bah, c'est une vraie question, pour nous consommateurs, mais aussi pour les entreprises.
Absolument.
Alors, l'Europe, elle tente une réponse d'envergure, le Cyber Resilience Act, le CRA.
C'est ça.
Pour décrypter ce texte, on va s'appuyer sur les documents officiels de l'UE, bien sûr, mais aussi, et c'est intéressant, sur l'analyse d'Integral Systems.
Oui, un acteur très reconnu en informatique industrielle.
Exactement. Alors, qu'est-ce que ce CRA change vraiment ? On regarde ça de plus près.
Alors, le CRA, c'est une nouvelle législation européenne. L'idée, c'est vraiment de s'attaquer à la sécurité de ce qu'on appelle les produits avec éléments numériques.
Produits avec éléments numériques. C'est large, ça ?
Oui, très large. Ça couvre le matériel, le logiciel, même un composant ou un service à distance qui est essentiel pour que le produit fonctionne, quoi.
D'accord.
L'objectif principal, c'est d'assainir le marché. Moins de produits avec des failles de sécurité. Et pour ça, on mise sur la sécurité dès la conception.
La sécurité par conception.
Voilà. Forcer les fabricants à penser sécurité tout au long du cycle de vie du produit. Et aussi, plus de transparence pour les utilisateurs.
Sécurité dès la conception, ça sonne bien. Mais concrètement, qui doit appliquer ces règles ? J'imagine que ce sont les fabricants.
Principalement, oui. Les fabricants, les OEM, comme on dit Original Equipment Manufacturers, donc ceux qui conçoivent et fabriquent, et sont en première ligne.
Ok.
Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Les importateurs, les distributeurs dans l'UE, ils ont aussi leur part de responsabilité.
Ah oui, d'accord.
Il y a un point qui a fait pas mal parler, l'exclusion des logiciels open source.
Ah, sauf si.
Exactement. Sauf s'ils sont fournis dans un cadre commercial.
Attendez, commercial, ça veut dire quoi ici ? C'est juste le prix ? Si on paye, c'est commercial ?
Pas seulement, non. C'est plus large que ça. Ça peut être un prix d'achat, oui. Mais aussi une monétisation indirecte, par exemple via les données collectées. Ou même si on fournit un support technique payant de façon régulière. En gros, si on développe un logiciel libre bénévolement, sans chercher de profit, on n'est pas concerné.
D'accord.
Mais dès qu'il y a une structure derrière, une régularité, une intention de monétiser, même indirectement, là, la question se pose.
C'est plus clair. Les projets portés par des fondations à but non lucratif, eux, ils sont plutôt hors champ alors.
En général, oui. C'est pas considéré comme commercial dans ce sens-là.
Bon, d'accord. Et pour ceux qui sont bien concernés, quelles sont les exigences principales ? Ça doit être assez technique, non ?
Oui, il y a pas mal d'exigences, détaillées dans une annexe du règlement, mais on peut retenir deux grands axes.
Ok.
D'abord, le produit lui-même. Il doit être sécurisé par défaut, protéger les accès, assurer la confidentialité, l'intégrité des données, minimiser les données collectées aussi.
Le principe de minimisation.
C'est ça. Et il faut évaluer les risques cyber, documenter tout ça. Et ensuite, deuxième point, très important, la gestion des vulnérabilités après la vente.
Ah oui, ça c'est crucial.
Exactement. Identifier les failles, y compris celles qui viennent de composants tiers.
Ce qui n'est pas simple.
Non, c'est un défi. Fournir des mises à jour de sécurité régulièrement, gratuitement, et avoir un canal clair pour signaler les problèmes.
Ces mises à jour gratuites, c'est pendant combien de temps ? Parce qu'on sait bien que certains appareils sont vite abandonnés.
Alors ça, c'est un point clé du CRA. C'est le fabricant qui définit la période de support. Il doit tenir compte des attentes raisonnables de l'utilisateur, de la nature du produit.
Mais il y a un minimum.
Oui. Et c'est ça la nouveauté. Minimum 5 ans.
5 ans ? Ah oui, quand même.
C'est une petite révolution, oui. Fini, en théorie, le produit vendu et puis oublié côté sécurité. Il y a des exceptions si la durée de vie est plus courte, mais il faut le justifier.
Et pour du matériel industriel, ça peut être plus long, j'imagine.
Bien sûr, oui. Et cette durée de support, elle doit être communiquée clairement à l'utilisateur avant l'achat.
5 ans minimum. Ça va changer pas mal de choses pour la conception. Et même les coûts, non ?
Certainement.
Est-ce que tous les produits sont logés à la même enseigne ? Même niveau de contrôle pour tous ?
Non, et heureusement d'ailleurs. L'approche est basée sur le risque. La très grande majorité des produits, on estime autour de 90%.
Genre l'enceinte connectée de base.
Voilà, c'est ça. Risque faible. Pour eux, le fabricant fait une auto-évaluation de conformité. C'est le module A, si on veut être technique.
Ok.
Ensuite, on monte d'un cran, les produits dits importants. Là, on trouve les systèmes d'exploitation, les routeurs, les gestionnaires de mots de passe, certains objets connectés pour la maison liés à la sécurité.
D'accord, là, ça devient plus sérieux.
Oui. Là, soit on suit des normes précises, soit on passe par une certification, soit, et c'est souvent le cas pour une partie d'entre eux, il faut une évaluation par un organisme tiers.
Un contrôle externe.
C'est ça. Pour les plus sensibles de cette catégorie, importance, classe 2, ils appellent ça, comme les pare-feux, les VPN. L'évaluation par un tiers est même obligatoire.
Et il y a une catégorie encore au-dessus ?
Plus critique.
Oui, la dernière catégorie.
Les produits critiques. Là, c'est le top niveau de risque. On pense aux modules matériels de sécurité, les HSM ou les cartes à puces sécurisées.
D'accord.
Pour eux, l'évaluation par un tiers est la norme. Et l'UE pourrait même à terme imposer une certification européenne obligatoire. L'idée, c'est vraiment d'adapter le contrôle à l'impact potentiel d'une faille.
Logique. Et si une faille est découverte et qu'elle est exploitée activement, il faut réagir vite, j'imagine.
Très, très vite. Si une vulnérabilité est activement exploitée, le fabricant a 24 heures pour une alerte précoce.
24 heures, ok.
Oui. À l'ENISA, l'Agence européenne de cybersécurité, et aux CSIRT nationaux. Puis, une notification plus détaillée en 72 heures. Pareil pour les incidents de sécurité graves.
C'est une pression énorme, hein ?
Ah oui, ça oblige à avoir des processus de veille et de réponse très efficaces. Et bien sûr, il faut informer les utilisateurs qui sont touchés.
Et nous, comment on saura qu'un produit respecte tout ça ? Il y aura un label ?
Le signe visible, ça sera le marquage CE. Ce marquage qu'on connaît déjà va maintenant inclure cette dimension de cyber-résilience.
D'accord, le CE sera renforcé en quelque sorte.
Exactement. Et derrière ce CE, le fabricant devra avoir toute une documentation technique prête au cas où les autorités la demandent.
Et si on ne respecte pas les règles, les sanctions ?
Elles peuvent être lourdes, très lourdes. Jusqu'à 15 millions d'euros ou 2,5% du chiffre d'affaires mondial annuel pour les manquements les plus graves.
Ah oui, ça ne rigole pas.
Non, il y a des amendes moins élevées pour d'autres types de non-conformité, mais le message est clair. La sécurité n'est plus une option.
Et tout ça, ça entre en vigueur quand ?
Alors, le règlement est techniquement entré en vigueur fin 2024. Mais les entreprises ont un peu de temps pour s'adapter. Les obligations de notification des failles, par exemple, c'est plutôt pour l'été 2026.
Ok.
Et pour l'application complète de toutes les autres exigences, on parle de décembre 2027. Le compte à rebours a commencé.
C'est un vrai défi, notamment cette gestion continue des vulnérabilités pendant au moins 5 ans. Comment les entreprises peuvent faire face ? Integral System, il parlait de solutions, non ?
Oui, c'est un enjeu technique, mais aussi organisationnel. Et effectivement, des entreprises spécialisées proposent des outils. Integral System met en avant son partenaire Exane, par exemple.
Qui propose quoi, Sam ?
Ils ont des solutions pour analyser le code avant même la mise sur le marché, pour détecter les failles en amont. Et aussi des outils pour surveiller et protéger les appareils une fois qu'ils sont déployés en temps réel.
Une approche combinée donc, prévention et réaction.
C'est ça. C'est ce type de solution qui peut aider les fabricants à répondre à ces exigences continues du CEREA. Et il faut voir ça aussi dans un ensemble. Le CEREA vient compléter d'autres textes comme NIS 2 qui visent plus les services essentiels. L'Europe tisse vraiment sa toile réglementaire en cyber.
Donc, pour résumer, le CEREA, c'est pas juste une norme de plus. C'est vraiment une tentative d'imposer la cybersécurité comme une partie intégrante et continue de tout produit connecté vendu en Europe.
Tout à fait. La responsabilité de la sécurité, elle repose maintenant clairement et sur la durée sur les épaules des fabricants. Et le marquage CE devient en quelque sorte un indicateur de cette conformité ciblaire. C'est un vrai changement de paradigme.
Et pour finir, une petite question qui ouvre un peu la perspective. Est-ce que cette approche européenne, très volontariste, pourrait finir par devenir une sorte de standard mondial pour la sécurité de l'Internet des objets ?
C'est une excellente question.
Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir été avec nous pour cette exploration du Cyber Resilience Act.